Chapitre 5. La Joconde. J'ai voulu consacrer un chapitre spécial à la Joconde, si fameuse. Le type féminin qu'adopta Léonard de Vinci provient-il d'une inspiration spontanée, ou représente-t-il l'image d'une femme qu'il aima, ou bien encore se compose-t-il de réminiscences, d'impressions raisonnées patiemment? M. Charles Clément raconte un fait étrange, une découverte due au hasard, et qui lui paraît susceptible d'expliquer pourquoi Léonard, qui choisissait pour ses têtes d'hommes les modèles les plus variés, avait, pour ses têtes de femmes, adopté ce type unique, si facilement reconnaissable, mais qui a tant embarrassé tous ses admirateurs attentifs. Parmi les tableaux appartenant au roi Louis-Philippe et qui furent vendus aux enchères, se trouvait un beau panneau de cèdre sur lequel était peinte une figure paraissant médiocre. Un marchand de tableaux de Paris, M. Moreau, l'acheta, se doutant peut-être qu'un si grossier badigeonnage devait cacher quelque mystère. Le panneau nettoyé, on trouva une admirable peinture où je n'hésitais point, lorsque je la vis, il y a quelques années, à reconnaître la main de Léonard. On a dit que ce tableau avait été recouvert par les ordres du duc d'Orléans, fils du régent, qu'il avait été relégué dans les greniers du palais royal, où on l'avait oublié, mais que le roi Louis-Philippe savait, par des papiers de famille, qu'il devait posséder un ouvrage de Léonard et qu'il s'en était souvent informé. Quoi qu'il en soit, cette peinture représente une femme à demi couchée, presque nue, évidemment faite d'après nature. C'est la Joconde. Ce sont les mêmes traits, le même sourire de la bouche et des yeux, les mêmes merveilleuses mains. Le critique d'art ajoute qu'il existe deux portraits de la même personne, en buste et sans vêtements. L'un était une des parures de la galerie Fesch, l'autre se trouve encore à l'Ermitage. En outre, Léonard était dans tout l'éclat de sa grâce, de sa beauté et de son génie lorsqu'il peignit Mona Lisa, la Joconde. Au lieu de le donner à l'époux, qui aurait dû en revendiquer la propriété, il garda ce portrait chez lui et enfin, à partir de cette époque, toutes ses peintures, surtout ses dessins, rappellent d'une façon étonnante le visage de Mona Lisa. Pour toutes ces raisons, Charles Clément conclut, non pourtant sans quelque timidité de sa conscience scrupuleuse, que Léonard de Vinci a dû aimer la jeune femme de Francesco del Giocondo et que désormais l'image adorable hanta son esprit partout, dans ses rêves et dans son travail. En tout cas, c'est en 1500 que Léonard commença cette œuvre. 5 années auparavant, Francesco del Giocondo avait épousé Mona Lisa de Naples, fille d'Antonia Maria d'Inoldo Gherardini. Ils se mariaient pour la 3e fois. Mona Lisa était une femme très belle, peut-être intelligente, et qui, peut-être aussi, s'ennuyait dans la société d'un mari, âgé sans doute, et trop capable de se consoler très vite de la disparition de ses femmes. Un air de langueur, de mélancolie presque triste, répand une douce pénombre sur ce visage que l'art a rendu immortel. Toujours tourmenté par la passion du mieux, et davantage encore s'il est possible, devant une femme qu'il chérissait avec de l'amour et de la pitié, Léonard travailla, ou feignit de travailler, pendant 4 ans à ce portrait. N'était-il pas libre de s'y dévouer à son gré? Préférait-il le laisser en repos, dans une sorte d'oubli, afin de le retrouver ensuite, avec plus de charme, dans une clarté plus grande? Nous ne savons pas. Presque tout est mystère dans les gestes, dans la méthode, presque dans la volonté de Léonard. Et le mystère également enveloppe cette image de la Joconde qui tantôt nous paraît voluptueuse, tantôt indifférente. Vasari en fait un éloge dithyrambique répété chez tous les peuples par tant de commentateurs et de poètes. « Quand on veut savoir, dit-il, jusqu'où l'art peut s'élever et imiter la nature, il faut regarder cette tête. Les plus petites choses y sont peintes avec la finesse la plus minutieuse. » Le cristal humide de l'œil, l'ombre de ses cils, n'avait jamais été rendu avec une telle précision. Ces teintes rougeâtres et un peu plombées qui cernent les yeux et qui leur donnent tant de suavité et de grâce, quand un peintre parvient à les distribuer avec une telle intelligence, une telle distinction, ces passages si délicats et ces tons si tendres par lesquels les sourcils et les poils s'harmonisent avec la chair, ce nez, avec ses belles ouvertures et ses facettes reflétées, ses lèvres colorées et riantes, avec leurs attaches si mobiles, ce cou et ce creux de gorge, toutes ces choses enfin si souples ne sont pas de la peinture, on dirait une belle femme qui respire. Ce portrait est le désespoir des peintres. Pour ne pas fatiguer ses modèles, Léonard avait l'habitude de les distraire, de les amuser, par les réparties étincelantes de sa causerie nombreuse et facile. D'autres fois, il réunissait dans son atelier les meilleurs musiciens de la ville. Il faisait venir des chanteurs et même des bouffons. Il évitait ainsi chez ses modèles, en les entourant d'une atmosphère douce de gaieté, cet aspect d'affaissement, de lassitude que l'on constate en beaucoup de portraits. Et sans doute, en captivant par les délices de sa conversation Mona Lisa, en excitant chez elle par des émotions d'art le plaisir des sens et de l'âme, put-il plus habilement saisir sur les traits de son visage cette joie profonde de vivre qui, pour l'homme inquiet de la Renaissance, représente l'expression la plus rare et la plus parfaite de la beauté physique jointe à la beauté morale. Lorsqu'enfin Léonard montra ce portrait à ses amis, tous crièrent au miracle. « Quiconque, dit Lomazzo, a vu cette peinture, doit avouer la supériorité de l'art sur la nature. L'art n'a-t-il pas, en effet, des moyens plus subtils et plus nobles d'exprimer le réel que les yeux perçoivent et le caractère que pénètre l'intelligence ?» François Ier acheta au peintre son œuvre 4000 écus d'or, 45 000 francs. Les copies en sont très nombreuses. On en trouve au musée de Madrid, de Munich, à la Casa Masi de Florence, à Rome chez le prince Torlonia, à la Villa Sommariva sur le lac de Côme, à Londres, dans la collection Hume, au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Le portrait du Louvre a noirci, mais sans rien perdre de son harmonie ni de sa beauté, c'est sans doute par inadvertance que les commentateurs de Vasari ont prétendu qu'il avait été gravement défloré par une restauration maladroite. Le tableau est peint sur bois. Sa hauteur est de 77 cm, sa largeur de 53 cm. Le buste est peint grandeur nature. Des hommes de tous les âges et de tous les peuples, des poètes, des rêveurs, des amoureux, se sont pressés devant ce cadre étroit. Avec un même frémissement de curiosité, d'admiration, de tendresse hésitante, ils ont regardé les yeux de la Joconde, limpides et peut-être vides, ses lèvres souriantes et peut-être seulement sensuelles, ses mains paresseuses, grasses, qui ne surent peut-être pas répondre aux caresses du désir et de l'amour. Lequel de ses admirateurs peut nous dire la clarté d'esprit qu'il a, un jour de divination, aperçue sous le front paisible de Mona Lisa, ou la chaleur qu'il a sous son jeune sein ressenti? Vraiment, si Léonard a voulu poser devant les siècles une énigme d'intelligence et de beauté, il a réussi à merveille. Nous restons fascinés et troublés, un infini agit sur nous par un étrange magnétisme. Cette toile m'appelle, m'envahit, m'absorbe. Je vais à elle, malgré moi, comme l'oiseau va au serpent. La Joconde, gracieuse et souriant fantôme. Vous la croyez attentive aux récits légers de Boccace? Prenez garde. Vinci lui-même, le grand maître de l'illusion, fut pris à son piège. De longues années, il resta là sans pouvoir jamais sortir de ce labyrinthe mobile, fluide et changeant, qu'il a peint au fond du dangereux tableau. Il est impossible d'exprimer plus fortement les louanges d'une œuvre humaine. Michelet lui-même, ce grand visionnaire, confessant le trouble qu'elle provoque dans son esprit et dans son âme. Tous les poètes, tous les observateurs, ne se laissent pourtant pas séduire par les grâces un peu confuses de la Joconde. Pour ne citer que l'un de ses critiques rebelles, je rappellerai la protestation de Camille de Sainte-Croix, dont nul ne méconnaît le savoir et la compétence. Voici 3 ans, un dimanche matin, Camille de Sainte-Croix, conférencier publiquement au Louvre, en plein salon carré, pour ses amis de la Société d'éducation, Arrêt travail devant la Joconde. Il ne se gêna pas pour contester le rang suprême que l'on attribue d'ordinaire à l'illustre tableau. Il faisait valoir ses raisons lorsque, du fond de la galerie, un peintre déjà célèbre, peintre de tradition et de talent, répliqua rudement « Vous n'avez pas le droit de critiquer la Joconde !» Surprise de Camille de Sainte-Croix et de ses auditeurs. « Quoi ? Les hommes n'ont plus le droit de discuter l'œuvre d'un homme ?» Cette œuvre, dès qu'elle était estampillée, comme une marchandise à la douane, par le sceau de l'admiration officielle, doit être considérée plus parfaite que le soleil, qui a des tâches. Camille de Sainte-Croix, loin de se déconcerter, continua sa causerie. Et je veux transcrire quelques-unes de ses paroles, qui sont d'un artiste clairvoyant et sincère. La Joconde charme les uns, agace les autres, pour des raisons de goût sensuel. Parlons donc peinture et demandons-nous nettement, picturalement, ce qu'est un chef-d'œuvre et si la Joconde en est un. Au Louvre, le couronnement de la Vierge de Franck Angelico, créant tout un art d'expression inconnu avant lui, les fresques de Luini fondant le style d'une perspective et d'une harmonie morale sans précédent, la douzaine de grands portraits de Rembrandt, du Titien et du Tintoret, imposant la dominante physionomique par les plus sublimes simplifications du métier coloriste, les incomparables réalisations anatomiques de Mantegna, triomphant des difficultés proposées par le savant Uccello, les trouvailles si pures et si naturelles d'un Velázquez ou d'un Chardin, la si vive et si neuve compréhension de l'ambiance atmosphérique que le premier prouva le sensible Andrea del Sarto, les puissantes innovations impressionnistes d'un Caravage, d'un Peter de Hoogh, d'un Franz Hals ou d'un Turner, voilà des créations qui datent dans la chronologie des progressions de l'art de peindre, voilà des chefs-d'œuvre. En face, que représente Léonard de Vinci? Il est un continuateur décadent des mièvreries de Botticelli. Venu à ce moment de la dégénérescence florentine, où les nobles et saints efforts de Ghirlandaio n'avaient pu vaincre la mauvaise vogue des creuses orfèvreries botticellesques, Léonard trouva son compte de succès à renchérir sur les artifices galants de son devancier. Mona Lisa était de tempérament vague et triste. C'est le contraste de son sourire forcé avec l'inanité des yeux froids et puérils qui remua aux époques de divagation romantique tant de littérature. Michelet en éprouva le vertige, Gautier y perçut l'ironie de l'antiquisis, Georges Sand y vit, dans cette moue de deux belles lèvres, toute l'humanité jugée par un humour de penseur génial. Et Camille de Sainte-Croix, avec une sorte d'amère impatience, conclut ainsi. Cultiver la Joconde comme le suprême aboutissement microscopique d'un maniérisme adroit, docte et laborieux. N'oserais-je pas dire que la Joconde peut compter comme l'exemple le plus précieux du plus complet tableau de commerce ? Camille de Sainte-Croix pousse loin sa rigueur. Mais cette passion même d'un artiste désintéressé ne commande-t-elle pas le respect ? Elle démontre au moins qu'une œuvre d'art, aussi dignement exécutée qu'elle soit, s'expose à être discutée, niée même, dans ses conditions les plus évidentes de charme et de beauté, lorsqu'elle n'offre pas à ses observateurs les moyens de la comprendre avec une clarté parfaite dans toute sa pensée. Le destin de cette œuvre, d'ailleurs, est de s'envelopper toujours de mystères davantage, et son histoire maintenant, se confondant presque avec la légende, touche au drame. Le matin du mercredi 23 août 1911, on apprit tout à coup que la Joconde avait disparu du Louvre. Ce fut dans Paris, dans le monde entier, un mouvement de stupeur et d'indignation. Le rap de la Joconde paraissait aussi incroyable que celui des tours de Notre-Dame. Il fallut pourtant bien se rendre à la vérité. La veille, vers midi, un gardien-chef, remarquant soudain que le panneau du salon carré, le panneau d'honneur, occupé ordinairement par le tableau de Léonard de Vinci, était vide, avait donné l'alarme. On courut, on s'agita, mais en vain. M. Lépine, préfet de police, prit lui-même la direction des recherches à travers tout le palais, des caves aux combles. L'unique résultat de tant d'efforts fut la découverte, dans le grand escalier, au pied de la Victoire de Samothrace, du cadre qui entourait la Joconde et de la vitre qui la protégeait. Le cadre était intact. Après toutes les enquêtes des magistrats, il demeure établi que le vol a été commis dans la matinée du lundi 22 août, vers 8 heures, c'est-à-dire le jour où les gardiens procèdent au nettoyage des salles, le jour aussi où seuls les visiteurs privilégiés et assez rares ont accès dans le musée. Ce scandale provoqua un grand nombre de perquisitions, d'interviews plus ou moins pittoresques et d'interrogatoires sévères. Les magistrats, les administrateurs du Louvre, malgré leur déception de chaque jour, conservèrent énergiquement l'espoir de recouvrer le trésor perdu. On ferma le musée pendant plus d'une semaine. On se méfia de tout et de tous, dans l'administration et au dehors. Cependant, la Joconde, malgré tous les sourires et les plus engageantes promesses des gouvernants responsables et des particuliers riches amateurs d'art, la Joconde ne revenait pas au Louvre. Même, autour d'elle, l'ombre du mystère s'épaissit davantage. Il ne faut pas croire que le Louvre soit l'unique musée où les voleurs opèrent de si importantes besognes. On n'a pas oublié, à Saint-Pétersbourg, une aventure qui, voici quelques années, mit en émoi le monde des fonctionnaires délégués aux Beaux-Arts. Un Anglais se présenta un jour au musée de l'orchestre de la cour impériale et, se flattant d'être un amateur fort expérimenté de violons italiens, demanda très humblement à voir un Stradivarius. Le lendemain, ce Stradivarius merveilleux avait disparu de sa vitrine et ce fut en vain qu'on le rechercha partout. Un an plus tard, l'Anglais faisait connaître au ministère de la cour qu'il avait découvert le précieux violon et il offrait de le retourner au musée contre une somme de 5000 roubles. Il ajoutait, par prudence, n'exiger qu'une seule condition, c'était que le gouvernement russe ne s'efforçât jamais de savoir de quelle manière cette fortune était tombée entre ses mains. Le ministère de la cour n'hésita point à envoyer au bon messager la somme qu'il demandait, et ce messager, loyalement, si vous voulez, envoya le Stradivarius à Saint-Pétersbourg. Le directeur du musée du Louvre devait-il, un jour, être favorisé par le hasard, aussi étrangement que le fut, en 1905, l'inspecteur général des monuments historiques, car vers la fin du XVIe siècle, l'ange aux larges ailes qui surmonte la flèche de la cathédrale de Laon avait disparu pendant qu'on procédait à des travaux de réparation portant sur tout l'édifice. On rechercha la statue, toujours en vain. Et l'on n'entendit plus parler de cette merveille du XIIIe siècle. Or, en 1905, il fallut commencer des travaux de restauration de la cathédrale de Laon. M. Sauvageau, inspecteur général des monuments historiques, dut, pour cet ouvrage, visiter les ateliers d'un fondeur parisien. Et il y trouva l'ange, disparu depuis des siècles. Afin de nous consoler de la disparition de la Joconde, on nous a tout de suite annoncé qu'il existe au château d'Arc-la-Bataille, près de Dieppe, un remarquable portrait de François Ier attribué à Léonard de Vinci. Là, dans un enclos, s'élève le pavillon de chasse de Henri IV que décorent des tableaux. Voici d'abord un portrait de Louis XIV encore enfant, dû au pinceau du Poussin, puis un porte-buste représentant Henri IV, puis enfin le portrait de François Ier. La longueur du nez est très marquée, mais la barbe est peu soignée. L'ensemble de la physionomie est plutôt celle d'un guerrier obstiné que du galant roi de France. M. Jules Rézet, qui a, dans le temps, catalogué les peintures du Louvre et à qui le château d'Arc avait appartenu avant que ce château ne devînt propriété de l'État, considérait cette œuvre comme étant bien du Vinci. Le conservateur actuel est du même avis. Elle date probablement de 1519. Le grand Florentin aurait fait, au déclin de sa vie, quelques mois ou même quelques semaines avant sa mort, d'une main fatiguée, le portrait de ce roi qui ne lui avait pas ménagé sa protection ni son amitié. Mais voyons, il ne faut plus se lamenter. Le Louvre a reconquis son trésor. Voici dans quelles circonstances romanesques. Plus de 2 ans après le vol, le hasard, aidé par la bêtise, qui, chez l'homme, a parfois quelque chose de bon, nous a servi. En 1911, l'un des ouvriers travaillant au Louvre, en qualité de décorateur ou de peintre en bâtiment, avait remarqué bien vite qu'il lui serait aussi facile de dérober au musée une toile que de cueillir une pomme sur l'arbre d'un champ abandonné. Avec une emphase naïve mêlée de roublardise, Vincenzo Perugia, qui était venu dans la douce France chercher les moyens de vivre, a raconté en ces termes son exploit. La surveillance n'existait presque pas à l'égard des ouvriers du Louvre en 1911. Je savais depuis longtemps de quelle façon le tableau de la Joconde tenait au mur. Un simple geste suffisait pour l'en détacher. Seul, le cadre me paraissait encombrant. Donc, un matin, je me rendis auprès de mes amis décorateurs qui travaillaient encore au musée. Un moment où ils causaient à l'écart, en plaisantant de je ne sais plus quoi, je me glissai dans la salle de la Joconde. En 2 minutes, j'eus décroché le tableau et je m'empressai d'emporter le cadre dans un escalier que seuls les ouvriers fréquentent. Ensuite, je retournai dans le salon carré. Je cachai le tableau sous ma blouse et, sans être aperçu de quiconque, je filai lestement. J'ai gardé chez moi, dans ma pauvre malle, pendant 2 ans et demi, la relique précieuse. Enfin, le silence s'étant fait sur cette aventure, j'ai voulu restituer la Joconde à l'Italie, ma patrie, où Léonard de Vinci, l'illustre Italien, l'avait conçue et composée. Heureusement pour la France et pour le Louvre, les dirigeants de l'Italie comprennent le patriotisme d'une autre manière que cet habile ravisseur, Vincenzo Perugia, fils de Giacomo, né à Domenza, province de Côme. Et le tableau célèbre a repris sa place dans le salon carré, place qu'avait occupée dignement, durant son absence, un portrait encore de la même école et de date voisine, le Baltasar di Castiglione de Raphaël. En tout cas, depuis ce vol mémorable, les salles du Louvre sont jalousement gardées. Le public n'y est plus admis que dans des conditions de gênante sévérité.